moi, je vous propose d'écouter un petit enregistrement justement d'une personne qui a été auto-éditée. Donc c'est Fédoua Lamoudière, qui est une traductrice, une grande traductrice de manga, qui a notamment traduit Dragon Ball, par exemple, ou Seven Deadly Sins, ou ce genre de choses, et qui a auto-édité son manga Pilgrim, justement, parce qu'elle ne voulait pas qu'on change son histoire, et qu'elle savait qu'elle avait un niveau de dessin qui n'était pas assez correct pour être accepté par les maisons d'édition de manga françaises. Et elle en parle super bien dans son interview. Et elle parle de tout ça, en fait, des maquettes, de comment justement choisir ce qu'on veut. Et donc, je vous propose d'écouter ça. Alors, c'est encore moi pour cette interview. Et aujourd'hui, je suis avec Shindo, ou Fédoua Lamoudière, qui est traductrice et mangaka. Bonjour, Shindo.
Bonjour.
Elle a quand même écrit et auto-édité un manga qui s'appelle Pilgrim. Et peut-être bientôt, on aura le deuxième.
Il est en cours. Il est en pré-publication en ligne et puis j'espère qu'il arrivera en version papier quand il sera terminé.
Yes, j'espère aussi, j'espère qu'il arrive vite. Et elle est également traductrice de manga également, dont Dragon Ball par exemple, entre autres. Mais il y en a beaucoup d'autres quand même. Et alors aujourd'hui, je l'ai invitée au téléphone pour répondre aux questions sur l'auto-édition. Alors, okay. Je vais commencer à te demander déjà, pourquoi avoir choisi l'auto-édition ?
Alors, Pilgrim, c'est mon tout premier projet. Et pour moi, c'était un petit peu un manga d'entraînement. Je veux être mangaka depuis très 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 longtemps, mais j'avais jamais vraiment concrétisé des planches, vraiment dessiné un manga. Donc, j'ai entamé ce projet pour déjà voir si j'en étais capable et aussi pour me remettre à niveau, parce que ça faisait super longtemps que j'avais pas dessiné. Et donc, j'étais parfaitement consciente en me lançant dans ce projet qu'il ne serait pas suffisamment abouti pour un éditeur de manga français. Je sais que je n'ai pas un niveau de dessin suffisant pour proposer ce manga à des éditeurs. Donc pour moi, c'était absolument hors de question de démarcher des éditeurs avec Pilgrim. Je l'avais publié sur mon site en pensant qu'il allait passer inaperçu, puis heureusement, il y a eu une communauté qui s'est formée autour du projet et qui ensuite m'a demandé de sortir une version papier. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans l'auto-édition. Comme ça, par hasard, parce que j'avais même pas pensé à la base à bien calibrer mes planches. Quand on fait imprimer une bande dessinée, un manga, il faut prévoir sur le contour de la page des fonds perdus, ce qu'on appelle, soit laisser des marges en blanc, soit faire continuer le dessin jusqu'à une certaine limite, parce que quand le masticot va couper la page, il ne faut pas qu'il y ait des bouts de dessin en trop ou en moins. Et donc tout ça, je n'avais pas du tout pris en compte pour Pilgrim. J'ai dû retoucher toutes mes planches ensuite pour pouvoir faire une maquette convenable pour l'envoyer chez l'imprimeur. Donc voilà. Pourquoi Pilgrim est en auto-édition ? Parce que ce n'était pas du tout prévu que je le sorte à la base.
D'accord.
Et il se trouve que pour le moment, je reste comme ça dans cette démarche-là parce que, j'exclus pas du tout de proposer ensuite ma série Aerials à des éditeurs. Mais pour le moment, l'auto-édition, ça me convient bien parce que ça me permet de m'entraîner, encore une fois, d'apprendre petit à petit, sans avoir la pression d'un rythme de publication et tout, parce que comme je ne suis pas du tout à plein temps sur mon manga, je ne pourrais pas forcément respecter des délais imposés. C'est la solution que j'ai trouvée pour pouvoir sortir quand même mes petites histoires, alors que je ne suis pas éditée.
Et justement, comment est-ce que tu as fait en fait ? Parce que, toi tu es traductrice, tu maîtrises excessivement bien le français, l'anglais, le russe, le grec, non ? Le japonais.
Bon, oui, tout ça.
C'est ouf, ça fait beaucoup, donc je pense que les corrections, tu peux te les faire toi-même.
Alors, c'est vrai, j'ai un bon niveau en orthographe, correction et tout ça, mais je suis quand même passée par un correcteur professionnel parce que vraiment, je n'avais pas du tout envie qu'il y ait des fautes dans mon texte. Donc oui, j'ai fait appel à Eric Tavarin, qui est un correcteur et il est crédité à la fin en tant que correcteur.
Ok. Comment t'as fait pour le reste, les maquettes, les visuels, comment t'as eu des gabarits justement qui rentrent ? Je sais pas comment expliquer, mais à chaque fois qu'on me demande des gabarits, moi je ne comprends pas comment on fait un gabarit, c'est trop compliqué.
Alors moi j'ai beaucoup de chance parce que comme ça fait plus de 20 ans que je travaille pour des éditeurs de manga professionnels, forcément je me suis liée d'amitié avec plein de gens. Donc j'ai une amie qui est fabricante, ce qu'on appelle, spécialisée dans tout ce qui va être justement maquette, spécifications pour l'imprimeur, tout ça. Donc elle m'a donné des tas de conseils qui vont jusqu'au choix du papier pour savoir quel papier demander à l'imprimeur. Ou il y a des trucs hyper précis du style ne pas avoir un taux d'encre trop élevé pour pas faire baver la machine de l'imprimeur. Enfin, c'est ça, ce genre de choses. Donc elle m'a vraiment tuyauté sur tout ça. J'ai un autre ami qui lui est graphiste et qui m'a proposé très gentiment de faire toute la maquette de Pilgrim. C'est lui qui s'est chargé de faire sous InDesign les gabarits et tout. Parce que j'étais pas trop sûre de moi pour cette étape-là. Pour Heaven, j'aimerais bien essayer de le faire moi-même parce que j'ai acquis un logiciel. Alors c'est pas InDesign, mais c'est un équivalent de la marque Affinity Publisher. Et c'est assez intuitif. En fait, tu commences par te dire dans quel format je voudrais que sorte mon manga. Moi, j'avais pris comme modèle un manga de chez Pika que j'avais sous la main parce que je le traduis. C'est Deadly Sins. Je me suis dit, allez, les dimensions, je les aime bien. Donc, j'avais mesuré. Admettons que c'était 11 par 17. Tu te dis, bon, bah, si mes dimensions intérieures, c'est 11 par 17, il faut que je rajoute 5 mm de chaque côté. Donc, dans le logiciel, tu vas lui dire voilà la taille de ma page, voilà la taille des marges que je vais ajouter, et lui, il va ensuite te sortir une planche avec les repères indiqués dessus en différentes couleurs. Et après, toi, tu vas importer ton image et tu vérifies avec les petits repères de couleurs si ce qui est important est bien dans la zone qui sera imprimée, pas celle qui sera coupée, et tout ça.
Ok. Mais c'est un peu compliqué ou ça va, ça passe?
Franchement, ça va. Et puis, on peut trouver des tutos, au pire, sur le net. On n'a pas d'amis pros sous la main. Et ben, c'est toujours comme tout. Ça dépend du profil de l'artiste. On va se sentir complètement noyé en mode « Ah non, moi, je pourrais jamais faire ça. Et puis, je préfère confier tout ça à un éditeur. » Soit on se dit « Non, ben, allez, je prends le problème à bras-le-corps. Et puis, en 2-3 jours, c'est bon, j'aurai maîtrisé le logiciel.
» Ok. Et du coup, quand tout ça s'est fait, quand tu as imprimé ton manga... Donc déjà, j'imagine que tu commandes en stock en particulier?
Et oui, parce qu'en fait, quand tu lances une commande chez un imprimeur, plus tu vas imprimer d'exemplaires identiques, plus le prix à l'exemplaire va baisser. Donc, faire imprimer des petites quantités, ça vaut toujours beaucoup plus cher à l'exemplaire.
Ok.
Donc, c'est vrai que moi, ma première impression, j'avais fait imprimer 400 exemplaires. J'avais un prix assez élevé. Là, ma troisième réimpression, j'avais fait imprimer 1000 exemplaires.
Ah ouais.
Et là, c'était beaucoup plus raisonnable.
Et du coup, niveau vente, comment ça se passe? Où est-ce que tu vas les vendre? Est-ce que ça se vend bien? Comment tu fais la com, etc.?
Alors, encore une fois, comme moi, je n'attendais rien de ce projet, bah forcément, c'est que du bonus quelque part. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait des gens qui achètent mon manga. Donc, je vends principalement en convention parce que j'ai la chance d'avoir mon autre métier qui intéresse les gens qui organisent des festivals. Donc, souvent, je suis invitée pour faire des conférences sur la traduction de manga et tout. Et en même temps, ils m'offrent un stand pour que je puisse vendre mon manga.
Ah, c'est trop bien.
Quand je ne suis pas en conférence. Oui, c'est vraiment génial et je les remercie beaucoup. Donc, c'est vrai que quand Pilgrim est sorti en 2022, j'ai fait beaucoup de conventions comme ça. J'en ai fait d'autres aussi en exposant vraiment classique. Et bah, tu payes ton stand et puis tu vas vendre ton manga. Et à part ça, j'ai aussi une boutique en ligne pour tous ceux qui voudraient commander le tome. Mais c'est vrai que le plus gros des ventes, je l'ai fait en festival. C'est normal. C'est là qu'on va à la rencontre du public. Parce que comme je suis en auto-édition et que je n'ai pas pris de diffuseur-distributeur, donc les gens qui vont démarcher les librairies, forcément, on ne peut pas me trouver dans le circuit de distribution classique.
Oui, ok. Et du coup, tu ne fais pas du dépôt-vente en librairie?
Alors aussi, il y a quelques librairies qui acceptent de travailler avec les auteurs indépendants.
Okay.
C'est pas toutes, mais il y a vraiment des libraires engagés qui soutiennent l'auto-édition. Donc, dans vraiment quelques points de vente en France, on pourra trouver Pilgrim, soit en dépôt-vente, soit en vente normale avec le libraire qui m'a acheté un stock. Mais tous les libraires donc n'acceptent pas forcément parce que, d'après ce que j'ai compris, c'est un peu compliqué pour eux parce que on n'est pas dans les bases de données, en gros, des éditeurs. Et donc, eux, ils doivent avoir un logiciel pour faire leur stock ou quelque chose comme ça. Et c'est moins pratique avec les auteurs indépendant.
Ok. Pour revenir un peu sur l'auto-édition globale, Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que, vraiment, dans la généralité, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît pour la liberté que ça apporte. Parce que, encore une fois, ça va vraiment dépendre du profil de l'artiste, de son caractère. Moi, mon projet de manga, que ce soit Pilgrim, Heaven ou ma série Ariel, c'est des scénarios que j'ai en tête depuis longtemps. Et en fait, je sais ce que je veux très exactement, même trop exactement. Et donc, j'aurais pas envie dans l'idée de trop transformer mon scénario ou de le calibrer pour plaire à un éditeur. Ça, c'est quelque chose qui me dérangerait un petit peu.
Oui.
Donc, c'est vrai que là, le fait de sortir mon histoire comme je l'ai en tête et comme j'ai envie de la partager avec les lecteurs, c'est quelque chose qui me convient très bien. C'est confortable pour moi aussi parce que j'ai un métier à côté et que je ne suis pas dépendante des revenus de mon manga. Parce qu'il faut quand même savoir que en auto-édition, bah, comme on n'est pas distribué et tout ça, on gagne pas énormément d'argent, c'est rien de le dire. Même si, et c'est un peu contradictoire, pour le coup, malgré tous les coûts de production que j'ai eus, c'est-à-dire que payer les réimpressions, tout ça, faut forcément avancer les frais. Mais ensuite, sur toutes les ventes, eh ben, l'intégralité du prix du livre, ça me revient à moi. Je garde 100% de mes droits d'auteur, alors qu'un auteur édité, eh ben, il va avoir qu'un petit pourcentage du prix du livre au final. Mais par contre, il va avoir une avance sur droit que va lui donner son éditeur au moment où il signe le contrat. Donc voilà, c'est vraiment en fonction des gens, en fonction de la situation, en fonction de nos attentes, en fait. Moi, c'est vrai que l'auto-édition, ça me plaît vraiment parce que j'aime tout contrôler. mais je parle à des collègues souvent qui me disent « Ah non, non, moi, ça m'irait pas du tout. Moi, ce que j'aime, c'est dessiner. J'ai pas du tout envie de gérer le reste. » Et c'est normal. Vraiment, ça dépend des profils. Et puis, voilà.
Et une question qui m'intéresse quand même particulièrement, c'est les obstacles rencontrés en fait pendant l'auto-édition. Qu'est-ce qui est dur?
Comme je disais, l'auto-édition, c'est beaucoup de liberté, mais c'est aussi beaucoup de contraintes. Parce que bah, tout ce que je te disais tout à l'heure avec les conseils que j'ai pu avoir de professionnels, bah, quand on les a pas, on est vraiment perdu, livré à soi-même. Les spécifications, tout ça, ça peut être un peu déroutant. Le fait de ne pas être distribué aussi, bah, y a beaucoup de gens qui me disent « Alors, on peut vous trouver en librairie ?» Et puis non, bah, là, forcément, c'est un frein aussi. Et il y a aussi un autre aspect, c'est-à-dire la mauvaise réputation que peut avoir l'auto-édition par rapport au circuit classique. C'est-à-dire que souvent, il y a une sorte de préjugé, j'ai envie de dire, que bah, auto-édition, ça veut dire que tu n'as pas réussi à être signé chez un éditeur, donc ton truc, il est nul. et c'est pour ça que tu le sors en auto-édition. Bon, alors, ce n'est pas toujours le cas. C'est vrai aussi. Hein. Je ne peux pas dire que, voilà, forcément, il va y avoir un degré de qualité, comment dire, un cahier des charges qui va être moins exigeant dans tout ce qu'on va trouver en auto-édition, vu qu'il n'y a pas eu l'étape éditeur qui va écrémer. Mais je trouve ça quand même un peu réducteur de cataloguer auto-édition égale bah, mauvaise qualité. Parce que nous, maintenant, je ne parle pas pour moi, évidemment, mais on va pouvoir trouver en auto-édition des titres absolument super, dont les auteurs ne sont pas passés par le circuit classique de l'édition pour diverses raisons. Ce n'est pas juste ils n'ont pas réussi à convaincre un éditeur. Et ça peut être des raisons financières, d'ailleurs. Il y a des auteurs qui étaient édités et qui ont décidé de reprendre leurs droits pour être auto-édités parce que ça fonctionne beaucoup mieux pour eux de cette manière, parce qu'ils récupèrent 100% de leurs droits d'auteur. Alors oui, c'est beaucoup de boulot, mais financièrement, ils s'en sortent beaucoup mieux comme ça. Donc là, pour le moment, je trouve que c'est encore un petit peu balbutiant. La réputation de l'auto-édition n'est pas encore très installée, mais j'ai bon espoir que dans les années à venir, ça devienne vraiment une alternative crédible au circuit classique de l'édition, et pas juste un plan B, quoi.
Et quels conseils tu donnerais justement à des auteurs qui voudraient s'autopublier ?
Alors, déjà, je voudrais vraiment préciser encore une fois que c'est pas fait pour tout le monde. Il faut vraiment avoir la volonté de se dire « je vais tout gérer, ça va être difficile, mais ça va être cool. Donc, déjà, faire ce travail sur soi-même, est-ce que l'idée de mettre plusieurs casquettes, d'être à la fois artiste, marketing, fabricant, graphiste, est-ce que c'est quelque chose qui me fait peur? Et si vous vous dites, bah non, c'est bon, allez, on y va, bah, à ce moment-là, il faut vraiment pas mal se renseigner en amont. J'ai pas du tout évoqué les campagnes de financement participatif, mais ça, c'est vraiment un point essentiel
c'est
aussi
vrai.
Pour sortir Pilgrim. J'avais fait un crowdfunding sur la plateforme Ulule, ce qui m'a permis de me donner les premiers fonds pour faire ma première impression.
Mm-mm.
Donc ça aussi, organiser une campagne de financement, c'est beaucoup de travail en amont. Voilà, il faut vraiment se renseigner. Alors sur la plateforme Ulule, on a un coach à qui poser des questions et c'est vraiment, vraiment très sympa. Et je conseille aussi beaucoup d'observer ce que font les autres. Les gros auteurs en auto-édition, par exemple Maliki, on peut aller voir comment ils ont organisé leur campagne, parce que c'est vraiment un point essentiel.
Mm-mm.
Et ensuite, il faut se débrouiller pour obtenir des informations. Moi, j'essaye au maximum de partager les petites connaissances que j'ai pu avoir en faisant mon projet. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram si vous avez des questions plus précises.
Et ton compte Instagram, c'est
Shindo_T45.
Comme la farine.
Comme la farine, exactement.
Comme tu m'avais dit la dernière fois.
C'est ça.
Vas-y, tu peux
et
continuer.
Oui, parce que je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est encore assez difficile de se renseigner efficacement sur tout ça, sur toutes les étapes de création d'un bouquin. Mais j'espère vraiment qu'au fur et à mesure que va se développer l'auto-édition, on va pouvoir trouver ce genre d'informations plus facilement sur le net, par exemple.
Mm-hmm.
Et je veux bien aussi conseiller, moi, mon imprimeur actuel, c'est Pulsio Print. Sur sa page internet, il y a une page de devis en ligne. Et je trouve ça vraiment très, très pratique, où on peut tout entrer, le format de son manga, le nombre de pages, la qualité du papier, si on veut une jaquette ou pas, la taille des rabats de la jaquette. Et je trouve que avoir les différentes cases, ça aide déjà à se demander qu'est-ce que je veux pour mon manga. Et ça te sort un devis immédiatement. Donc ça aide déjà à te positionner.
Et du coup, toi, t'envisages quand même potentiellement de te faire éditer un jour ?
Oui, disons que c'est toujours pareil. J'ai cette histoire qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Et si jamais un éditeur me dit, bon, ok, super, on la prend en l'état, c'est très bien. Mais si jamais l'éditeur commence à me dire, ah ouais, non, mais ça va pas, il faudrait changer ci, il faudrait changer ça, et s'il me demande vraiment des gros changements dans l'histoire qui vont aller à l'encontre des thématiques que je veux aborder, là, je préférerais rester en auto-édition plutôt que de trop changer mon histoire.
Ok, oui, mais je comprends.
Mais voilà, je suis... disons que les éditeurs de manga, je les connais bien, malgré tout. Donc c'est vrai que j'aimerais bien, ne serait-ce qu'avoir leur avis, quand je serai plus au point graphiquement.
Eh bien, merci beaucoup, Shindo, ou Fédoua la Maudière,
d'avoir
répondu à mes questions. C'était super intéressant. Et ça,
tant mieux.
Voilà, il y a plein de tips pour les auteurs auto-édités en devenir. Et ça, c'est super
j'espère
chouette.
J'espère que ça pourra aider un petit peu.
Ah ben, j'espère aussi. Eh bien, bonne journée, Shindo.
Merci, bonne journée.
Bisous. Et on est toujours sur Radio Vassivière en compagnie de Hélène et Latino. Et on a toujours quelques questions. Éloine, à toi.
Eh bien moi, ma dernière question pour le moment, est-ce que vous pouvez me dire comment vous prenez pour vous y prenez du coup pour la promotion ou la distribution des livres que vous éditez ?
Déjà, c'est deux choses différentes. Et promotion, c'est une chose, distribution, c'en est une autre. Il faut dire, et qui sont du ressort des personnes et des métiers différents. Alors, ça dépend, en plus, promotion, ça dépend, promotion vers qui on cible. Alors, s'il s'agit du public en général, et dit « voilà, j'ai fait ça, lisez-les », il y a plusieurs canaux. Historiquement, on se servait beaucoup de la presse. Sauf que la presse, dernièrement...
Magazine, radio, télé. Magazine, radio, télé, je précise.
Voilà. Et la radio.
Les journaux.
La radio qui, pour ce qui me concerne, ça reste aujourd'hui les moyens les plus, les plus percutants pour toucher les lecteurs. La presse écrite, qu'autrefois, c'était très important, elle a perdu complètement des disons, d'épaisseur là-dessus, parce qu'elle aussi, elle évolue, si on peut ainsi dire, d'une façon assez préoccupante. Et donc, certains sujets ne sont pas traités, ou sinon, et les propriétés, souvent des mêmes dont on parlait au début, des milliardaires dont on parlait au début de l'émission, lesquels, évidemment, ils privilégient la production de leur maison d'édition. Voilà, c'est tout un système qui est mis en place, dans lequel nous, en tant qu'éditeurs indépendants, on est complètement exclus. Après, pour ce qui concerne la promotion vers ce que moi je considère notre interlocuteur privilégié, c'est-à-dire les libraires, il y a un métier qui s'appelle la diffusion, c'est-à-dire c'est des personnes qui font la grande tournée de toutes les librairies de France et de Navarre, et ils disent « Regarde, l'éditeur Racam ou l'éditeur Fleuve-l'œil, ils ont fait ça, ils vont publier ça dans un, deux, trois mois. Est-ce que ça t'intéresse ?» Donc, il part du livre. Dans des termes, peut-être, on va détailler autrement, parce que là aussi, il y a des problèmes de ces dernières années à bien faire ce travail. Et donc, sur la base de ce travail-là, et du regard que les libraires donnent sur les livres, il y a des commandes qui tombent. Il y a des commandes qui tombent et qui vont chez ceux qui font l'autre partie du métier, c'est-à-dire qui font arriver physiquement les livres en librairie, c'est les distributeurs. Vraiment, c'est dont parlait Hélène tout à l'heure, comme on disait autrefois, carton-ficelle.
Carton-ficelle facture.
Voilà.
Donc, ce n'est pas vous directement qui choisissez les librairies dans lesquelles vous voulez envoyer vos livres, ou alors vous faites une liste aux diffuseurs. J'ai retenu.
Alors, on choisit pas vraiment, mais en fait, c'est les libraires, encore aujourd'hui, et heureusement, enfin, dans la plupart des cas, on va dire, les libraires choisissent les livres qu'ils vendent. Mais au sens propre, parce que de toute façon, aujourd'hui, il se publie tellement de livres qu'ils ne peuvent pas tout avoir en librairie, donc ils sont obligés de faire un choix. Donc, faut pas se scandaliser quand un livre qu'on aime n'est pas en librairie, c'est juste qu'il y a de grandes chances qu'il n'y soit pas. Mais c'est aussi à ça qu'on reconnaît, pour moi, une bonne librairie, c'est-à-dire qu'une bonne librairie, elle reflète une personnalité. Ou plusieurs, mais en tout cas, elle a une personnalité en elle-même qui est une sorte de ligne éditoriale aussi. Et donc ce choix-là, il peut être très pertinent. Donc la plupart des libraires choisissent les livres qu'ils vont vendre. Et du coup, nous, on ne va pas les forcer à prendre nos livres, on ne peut pas. Enfin, matériellement parlant, on ne va pas leur mettre un pistolet sur la tempe en disant « prends mon livre, sinon, trois petits points ». Non, ils ont le choix. Sauf peut-être dans certaines grandes chaînes de distribution. Alors, les supermarchés qui vendent des livres, je ne sais pas trop dans quelle mesure ils ont le choix. J'ai l'impression que c'est des commandes au-dessus d'eux, ça arrive et ils mettent en rayon. Donc voilà, si on s'occupe du rayon livre d'un supermarché, il y a des grandes chances qu'on soit obligé de mettre en rayon des trucs qu'on n'aurait jamais choisis, ou au contraire, qu'on ne puisse pas mettre en rayon des livres qu'on rêverait d'y voir. Et dans certaines chaînes culturelles aussi, moi j'ai travaillé au Furet du Nord par exemple, on avait encore en tant que libraire de cette grande surface culturelle, on appelle ça, j'avais la main moi-même sur les commandes, sauf pour certaines opérations commerciales qui étaient négociées à l'échelon des différents magasins de l'enseigne. Et là, on n'avait pas le choix, on était obligé d'accepter de 300 exemplaires d'Astérix. Moi j'en aurais pris même pas 100, mais on sait qu'on va en vendre à peine 100, que les 200 autres vont être pilonnés, mais il faut pouvoir en mettre des grosses piles à l'entrée, des grosses piles près des caisses, des grosses piles dans le rayon BD, et de toute façon ça a été négocié par les chefs au siège, on n'a rien à dire, ça serait comme ça. Donc voilà, ça joue aussi de la surproduction, et il y a certaines chaînes de magasins, grandes surfaces culturelles, dans lesquelles les vendeurs et les vendeuses, en fait, ne sont plus vraiment libraires, ils sont beaucoup vendeurs et vendeuses, parce qu'ils n'ont pas la main sur les commandes. Ils ont à peu près la main sur l'agencement de leurs étagères, et encore, un N+1 peut passer derrière et leur taper sur les doigts.
Donc ils vendent des livres que d'autres ont choisis pour eux. Mmh. Donc imaginez-vous la motivation qu'on peut avoir de vendre un truc qu'on déteste.
Donc ça, déjà, ça peut changer, ce qui fait que nous, on ne peut pas... si tout était comme ça, on pourrait peut-être choisir là où sont vendus nos livres. Et en fait, c'est un peu le cas pour les maisons de la presse, par exemple. Et les relais presse ne choisissent pas les titres qu'ils ont. Ils peuvent arriver à en commander certains autres, mais sinon, ils sont obligés de vendre ce qu'on leur envoie. À la différence de la librairie où normalement, on choisit. Donc voilà, on peut par contre, nous, avec notre diffuseur donc, qui est chargé de vendre nos livres, on insiste en disant bah, « Tiens, je suis passée dans telle librairie, elle est vachement bien. En fait, par contre, votre commercial ne va pas les visiter, on trouve ça dommage. » Alors souvent, ils nous expliquent que ça coûte des sous de faire une tournée d'un commercial, il faut le loger, défrayer. Et du coup, souvent, les commerciaux vont voir les librairies qui vendent, qu'on appelle ça le premier niveau, qui vendent plus. Et celle du deuxième niveau en dessous, souvent ça se fait par téléphone ou par mail. Ils reçoivent un PDF avec un bon de commande, quelqu'un les appelle dans le meilleur des cas, ou sinon personne les appelle, et on va compter sur le fait qu'ils prennent une commande. Donc dans ces cas-là, nous derrière, on peut repasser, d'ailleurs on appelle ça la surdiffusion, c'est quand l'éditeur ou l'éditrice prend sur son temps pour rappeler des libraires, pour dire « Coucou, t'as eu l'info là, on sort un super truc. Ah non, bah, j'ai pas vu le commercial depuis 2 mois, c'est vrai. » Ou « Ah bah non, mais je suis en froid parce que j'ai du mal à payer la dernière facture. » Ou « Ils m'ont fait des conditions commerciales cheloues. » Plein de raisons. On peut passer derrière et leur faire un petit coup de patte. Et dans ces cas-là, c'est nos relations en direct avec les libraires. Mais en tout cas, on ne peut pas vraiment exiger d'être dans telle librairie, parce qu'on sait très bien qu'au final, on ne décidera pas du tout.
Il faut dire une chose, parce que ce qui a changé, on parlait tout à l'heure de comment les métiers ont changé ces derniers 25 ans. Un des changements, notamment qui concerne les métiers des diffuseurs, c'est ça. On parlait des surproductions, donc imaginez un représentant d'une grosse, d'un de ces gros groupes, mais même d'un groupe plus petit, comme par exemple les distributeurs, diffuseurs qui distribuent nos respectives maisons d'édition, qui arrivent dans une librairie. Les libraires lui concèdent une heure parce qu'il a 37 millions de choses à faire. Il a des clients à servir, des colis qui arrivent, des colis qui doivent répartir, plein de choses. Et pendant cette heure, les représentants doivent lui présenter 200 nouveaux titres. Faites les calculs de combien de temps est consacré à chaque livre. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, il n'y avait pas 200 titres. Avant, moi, je m'en souviens d'une époque où un représentant arrivait avec 20, 30 à tout casser. Donc, il y avait plus de temps, on ne pouvait plus parler du livre. Et là, vraiment, les choses, c'est 10 secondes pour chaque livre. Beau, moche qu'il soit, chef-d'œuvre ou daube qu'il soit, c'est 10 secondes. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est beaucoup d'éditeurs ont fait ça, quoi. Ont créé cette figure, cet exercice, disons que c'est la surdiffusion. C'est présenter, dire, parfois aller les voir personnellement et dire, bah, regarde bien, tu as peut-être, oui, j'essaie, mais peut-être tu n'as pas vu bien. Perd encore 10 minutes pour mieux regarder les livres. Évidemment, les critères, et ça, il faut le dire, les critères qui rentrent en ligne de compte pour dire ces livres-là, je vais en prendre un ou je vais en prendre 10. Il y a, disons, différence de taille. Un livre dans une librairie, par un exemplaire, personne ne les verra jamais. Par 10, ça rien. Fait la fameuse petite pile. Mm-hmm. Qu'on voit sur les tables, il a sa petite place sur les tables, que c'est le premier endroit où les lecteurs va jeter son œil. Mais si on n'est pas sur les tables, c'est difficile, c'est dur. Et souvent, nous, on n'est pas sur les tables, parce que les tables sont occupées par d'autres, beaucoup plus, qui ont derrière eux une machinerie des promotions bien plus grande, bien plus rodée, avec beaucoup plus de moyens.
Ouais, ça nous arrive quand même, on ne peut pas complètement râler. Oui. Ça nous arrive d'être sur les tables, mais c'est vrai que c'est plus sur des livres qui ont eu un accompagnement de la presse, voilà, des journalistes qui en parlent assez vite, tous et toutes en même temps. Donc il faut aussi bien faire ce travail-là au bon moment. Ça, c'est aussi de la promotion, du coup, d'appeler tous les journalistes et de leur envoyer, de leur offrir un exemplaire du livre, de payer 10 balles de frais postaux pour leur offrir un livre, que sans doute ils n'iront pas parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils en reçoivent 25 par semaine. Mais voilà, on envoie des PDF, on envoie des livres dès qu'ils sortent pour être sûr qu'ils soient lus et éventuellement il y a quelques chroniques qui sortent au moment où le livre va être là pour que les gens qui rentrent en librairie se disent « Ah tiens, j'ai vu cette couverture quelque part ». Donc pour qu'ils voient la couverture, il faut effectivement que le livre soit posé sur la table. Sinon, s'il est dans les rayonnages, il ne verra que la tranche et là, a priori, il vaut mieux qu'il arrive dans la librairie parce que sur Instagram, il a vu que le livre était sorti, que ça l'intéresse et qu'il va aller dire eh, « vous l'avez, je vais aller voir ».
Ok.
Voilà, donc ça c'est un travail de promotion qui doit être fait aussi aujourd'hui quand un livre sort. Et que nous, à Flabolub, on fait, enfin en plus c'est moi qui m'en occupe, du coup j'essaie de le faire bien, mais avec le temps aussi qui est le mien. Et je le fais aussi avant tout par respect pour les artistes, parce que je sais ce que c'est que de passer plus d'un an pour faire un livre. Ouais. Et que quand il sort, s'il y a un grand vide, qu'on a l'impression que personne ne l'a lu, à part sa famille... Et l'éditeur Rhys qui nous a pété les... Enfin bref, qui nous a embêtés pendant un an. Ça peut être dur à vivre, quoi. Et donc nous, on fait fort... Enfin moi, j'envoie encore des livres un an après parution quand un journaliste me dit « Ah mais tiens, ce sujet m'intéresse. » Je sais très bien que le livre, il est plus visible en librairie. Par contre, il est toujours disponible. Pareil, on fait en sorte que nos livres restent disponibles au fil des années, ce qui n'est pas forcément le cas d'éditeurs industriels qui vont se dire « Non, j'en vends deux par an, ça coûte trop cher à stocker, on pilonne tout. » Nous, on essaie de les garder sur plusieurs années, voire dizaines d'années, pour que les artistes puissent dire « Oui, j'ai un livre disponible. Tu découvres mon boulot dans 2 ans. Mon livre, il a 2 ans. Il n'est pas périmé en 2 ans, le livre. Il est encore tout à fait pertinent. » Voir des livres qu'on a publiés il y a 10 ans, ils ont un regain d'intérêt aujourd'hui parce que l'artiste a fait un livre chez un éditeur plus connu aujourd'hui. Donc, les gens redécouvrent son œuvre d'avant. Et finalement, maintenant, on l'accepte mieux parce que c'est plus courant. Enfin, voilà. Bref, on compte là-dessus. Et on travaille la presse en se disant nos artistes, ils ont besoin d'un feedback sur leur œuvre, et que ça soit une critique négative, mitigée ou positive, c'est un retour. Alors les négatifs, faut faire gaffe. Hein. Bah, pareil, quand j'envoie un article un peu pourri à un artiste, je dis oui, alors je connais la personne qui a écrit ça, je me doutais que c'est pas trop ses goûts, ou alors ah, ce coup-ci, cette personne n'a vraiment rien compris. Mais c'est quand même rare, la plupart du temps, les gens écrivent pour dire qu'ils ont aimé. Et donc, faut juste leur rappeler qu'on leur a envoyé le livre, ils l'ont lu, et un tweet, ça suffit pas, ou un avis sur Insta, ça suffit pas, ça serait bien d'avoir un vrai article, et qu'il y a un auteur derrière qui attend ça, quoi.
Ok.
Voilà.
Ok. Oui.
En effet, bon, oui. C'est ce qui arrive, on peut dire, en résumant, que la surproduction, c'est la mère de tous les problèmes. Parce que c'est de là qui découlent des problèmes à tous les niveaux, quoi. Que ça soit la diffusion, la distribution et la librairie dans cette fameuse chaîne. Et ça, ce n'est pas un processus qui va s'arrêter. Il n'y a pas de décroissance prévue, notamment par les mécanismes dont on parlait au début, c'est-à-dire la grande lutte pour acquérir des parts de marché, comme on les appelle, qui se donnent les 4-5 gros groupes d'édition industrielle. Donc on continuera. Bon, là, il y a tout un autre volet qu'on pourrait aborder, c'est-à-dire l'impact écologique de l'édition, par exemple. Mm-hmm. Ce qu'il disait Hélène, c'est vrai, quand j'ai faisais les parallèles entre IKEA et les petits menuisiers, c'est ça aussi, c'est un aspect. Nous, on fait des livres parce qu'ils durent. Parce qu'on pense que c'est la fonction du livre. La fonction du livre, c'est porter de la création, on peut dire des sujets dans les temps et dans l'espace. Donc ça doit durer. Les gros, là, dont on parlait, ils ne se soucient pas du tout de ça. Mmh. Pour eux, c'est des flux et c'est des démarches. C'est tout. Donc pour eux, qu'un livre disparaisse des librairies, soit pilonné, 6 mois après qu'il est sorti, c'est une chose tout à fait normale, quoi.
Ouais, c'est
pour nous, pas du tout.
Et nous, on est plutôt... en tout cas, là, ça fait 2 ans aux éditions Flabolub. Je n'ai pas parlé de chiffres, mais on publie une dizaine de nouveautés par an, une douzaine en général. Et là, depuis 2 ans, c'était presque moitié moins, en fait. On a réduit pour plein de raisons. Il y a eu le Covid, évidemment, qui avait retardé plein de projets. On avait moins de moyens. On a aussi pris plus de temps à travailler avec des auteuristes qui, parfois aussi, ont du mal à financer leur temps d'écriture. On ne peut pas leur fournir des avaloirs qui financent tout le temps d'écriture non plus. Donc, pour plein de raisons, on a publié moins de livres. Cette année, on a un petit peu remonté. Mais voilà, nous, on est plutôt sur une pente un peu décroissante. Enfin, on essaye de faire du moins, mais mieux, et de faire plus vivre nos livres dans la durée, voire peut-être les faire un peu plus sortir de la chaîne du livre classique, même si, personnellement, les librairies sont vraiment des endroits que j'adore et que je souhaite voir perdurer. Mais voilà, on est conscient que pour qu'un livre vive bien, il faut peut-être le faire vendre ailleurs plus longtemps dans d'autres endroits. Et donc peut-être moins publié. Mais c'est pas du tout la tendance des grosses maisons d'édition industrielles. Eux, ils sont dans un flux. Et voilà, faire des livres trop vite, ce qui pour moi est horrible, parce que même en tant qu'artiste, on en connaît des artistes qui ont été ravis de signer chez Delcourt ou Casterman ou... ou d'autres maisons, enfin n'importe lesquelles des grands éditeurs
des grosses maisons.
De BD, qui les ont accompagnés dans leur sens à eux, enfin dans le sens des éditeurs, des maisons, de se dire « bah tiens, ça ressemble à tel machin qui marche bien ». Donc en fait, ils vont accompagner un auteur, pas forcément pour qu'il fasse ce qui lui ressemble le plus, lui ou elle, enfin, pas vers sa propre personnalité, mais vers quelque chose de bankable, qui marche. Et donc, on voit des jeunes artistes qui se sont fait broyer parce qu'on leur a dit « ah ouais, ton premier tirage, c'est 5 000, potentiellement 5 ou 10 000 ». C'était peut-être vraiment ça, sauf que bah, le lectorat, s'il n'est pas tellement trompé, s'est dit « bah oui, mais j'ai déjà lu ça qui ressemblait, j'en ai un peu marre de ces histoires-là maintenant, parce que tout le monde s'est mis à faire plus ou moins la même chose ». Donc paf, il se plante, le tome 1 se plante, et du coup l'éditeur dit à l'artiste « bah non, mais désolé, ton tome 1, regarde les chiffres, on en avait tiré à 10 000, on en a vendu 2 000, en fait, on fera jamais les tomes 2 et 3, et puis allez, bye bye ». Et bah, voilà, et ça, bah, ça casse,
il faut,
quoi.
Il faut quand même revenir sur une chose importante. Pour moi, parce qu'on parlait, on parlait surproduction, on disait les nombres des titres qui sortent. Il faut quand même s'arrêter un moment. Qu'est-ce que c'est la surproduction? Pourquoi il y en a autant? On parlait tout à l'heure des parts des marchés, etc., des volontés de ces gros groupes de couvrir tout ce qu'on appelle les segments du marché. Tout type du livre pratique, la philo, etc. Dans certains domaines, surtout. Il y a deux choses qui sautent aux yeux, c'est-à-dire la multiplication du même livre, les mêmes livres, mais chez 10 éditeurs différents. Ça s'est fait beaucoup sur les livres pratiques. En effet, sur les livres pratiques, en ce moment, il y a un gros goulot, et tous ces secteurs, ces segments des marchés, il ne va pas très bien.
Parce jardinage écologique et tout ça, quoi. Dès que c'est le printemps, vous allez voir, les librairies sont toutes vertes.
Voilà, 10 livres sur les confitures. Donc probablement 7, ils sont tout à fait inutiles parce qu'ils disent exactement les mêmes choses qui sont dans les autres 3 ou sur la peinture suédoise, 5 livres différents, chaque maison d'édition a les siens. Ou autre phénomène, c'est que moi j'appelle les clones, c'est-à-dire les copies des livres qui ont marché bien chez un autre éditeur.
Oui.
Vous avez les mêmes choses, tout ça chapeauté par l'obsession de l'édition industrielle, c'est celle de vendre les plus possibles, donc de plaire forcément à tous les mondes, de suivre des modes, de faire des livres qui soient vraiment, moi je dis, mi-figue, mi-raisin, de façon que les amants des raisins puissent les manger, tout comme les amants des figues. On est vraiment dans ces... Voilà, c'est la différence entre menuisier et Ikea. C'est dans ces choses-là.
Et je pense justement à ce que vous avez dit tout à l'heure, Hélène, sur faire moins mais mieux. Bah justement, on a une petite interview d'une maison qui s'appelle Mes mains en or. Vas-y, parle-nous-en, Éloane.
Eh bien, Lilou est allée à la rencontre de l'édition en question, du coup, Mes mains en or. Une maison d'édition associative, du coup, qui a pour but de faire des livres tactiles ou... de gros caractères et textes simplifiés, adaptés aux enfants et adolescents avec des déficits visuels et intellectuels. Une grosse partie de leur travail se fait à la main, du coup. Ce qui prend énormément de temps, de travail.
Et donc, il y a des tirages limités.
Voilà, des tirages limités, exactement. Ce qui prend, du coup, comme je disais, le temps, l'argent et... donner des prix abordables, ils veulent donner des prix abordables du coup pour que les livres soient faciles d'accès aux personnes en question du coup qui n'ont pas forcément la facilité d'avoir tous les tirages dans les librairies à leur portée. Du coup, pour revenir du coup sur ce que je disais, ils ne gagnent pas vraiment beaucoup d'argent.
Ils vendent surtout presque à perte.
À perte, énormément à perte. Donc ils fonctionnent par le biais du don. Ce genre de maison d'édition fonctionne comme ça. Alors n'hésitez surtout pas à aller visiter sur leur site internet mesmainsenor.com pour vous renseigner et pourquoi pas leur faire un don. On écoute Caroline Chabot, la directrice et fondatrice de Mes mains en or.
Alors Mes mains en or, c'est une maison d'édition associative où on crée, on fabrique et on diffuse des livres adaptés pour les enfants déficients visuels. ce qu'on appelle des albums tactiles, et aussi des livres en FALC faciles à lire et à comprendre pour les ados et adultes déficients intellectuels. Donc on fait ce qu'on appelle de l'édition adaptée pour des jeunes publics en situation de handicap.
Et alors cette maison d'édition, elle existe depuis combien de temps ?
Elle existe depuis bientôt 14 ans.
Et comment est-ce que vous avez eu l'idée justement de faire une maison d'édition dans ce but-là ?
Bah parce que moi-même, ma fille est en situation de handicap, elle est aveugle et lorsqu'elle était petite et qu'elle a perdu la vue, j'ai cherché des livres adaptés et j'ai pas trouvé grand-chose. Donc voilà, je me suis intéressée, passionnée, lancée, puis voilà, 14 ans plus tard, on s'est beaucoup développé parce que en fait, les besoins sont énormes en matière d'accès à la lecture pour les enfants en situation de handicap.
Et alors, comment ça se passe de créer justement des ouvrages tactiles, accessibles justement ?
C'est une production assez particulière. C'est d'abord une production artisanale. Ce sont des livres que l'on fabrique ici dans notre association. Donc, on a un atelier de production et on peut mettre ça en place grâce à des bénévoles parce que chaque livre est fait à la main. Alors, il est créé par une équipe de professionnels puisqu'on a des salariés ici. Et toutes les images qui sont des images tactiles, il y a des images qui sont découpées par des machines professionnelles, mais après il y a tout un assemblage que l'on doit faire et qui se fait à la main, tout collé dans les livres, il y a des petits systèmes qui sont cachés, etc. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre en relief une image visuelle, mais bien de se questionner sur ce qui a du sens pour l'enfant déficient visuel, pour l'aider à développer sa compréhension et son imaginaire aussi. La partie impression est faite chez des imprimeurs, imprimeurs braille. Et tout le montage, le collage et les images tactiles sont fabriqués ici, dans notre association. C'est un procédé qui coûte très cher, que l'on arrive à réduire aussi grâce au bénévolat. Et pour que les livres puissent être à un tarif accessible, on vit essentiellement de dons, voilà, et de subventions et de mécénat.
Le système de dons, il marche comment ?
En fait, on a chaque personne en fait qui a envie de faire un don à l'association peut le faire, soit via internet, soit en nous envoyant un chèque, voilà, et on est reconnu d'intérêt général, donc tous les dons sont déductibles des impôts. Il y a des entreprises aussi qui peuvent nous faire des dons. Puis après, c'est du mécénat des très grosses entreprises. On cherche toujours les appels à projets dans lesquels on pourrait rentrer. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile parce qu'en fait, la cause de la lecture chez les enfants aveugles, c'est un sujet dont on parle peu et dont les gens n'ont pas conscience en fait. Et pourtant, aujourd'hui, oui, dans un pays comme la France, avoir accès à la lecture quand on a un enfant déficient visuel, ce n'est pas si évident.
Et donc pour revenir à la fabrication du livre, un livre justement que vous créez à la main, comme j'ai pu voir dans les ateliers tout à l'heure, combien de temps ça prend par livre à peu près ?
Alors on estime le temps par livre, c'est 6 à 10 heures de travail. Voilà. Quand on lance la production d'un livre, c'est une année de travail entre le début et la fin, parce qu'il y a des tests au départ en plus, avec des personnes déficientes visuelles et des enfants déficients visuels. Puis après, il y a le temps de lancer la production. En amont, il faut avoir suffisamment de financement pour pouvoir le lancer aussi. Et toute la production tactile prend plusieurs mois. Tout est arrivé et prêt, qu'il faut coller dans les livres et après monter les pages, c'est 15 jours de travail.
Et donc je sais que vous réalisez des ouvrages un peu sur la sexualité, sur l'apprentissage de la sexualité, mais est-ce que vous faites aussi des histoires pour enfants ?
Oui, alors c'est vrai que depuis 4 ans, on mène un gros projet sur l'éducation à la sexualité pour les jeunes en situation de handicap, ce qui nous a amené à développer des livres adaptés sur le sujet. Mais principalement et historiquement, on fait d'abord des livres pour les petits, des albums jeunesse vraiment avant l'apprentissage même de la lecture, pour aider à rentrer dans l'apprentissage de la lecture. On a des collections après à partir du CP quand on sait déjà lire, et on a des collections éducatives et des petites collections documentaires aussi. On essaye de s'adapter, d'évoluer avec chaque âge, mais à chaque fois, on ne propose pas beaucoup de choses parce que ça prend du temps, ça coûte beaucoup d'argent, donc on ne peut pas faire autant de livres qu'on aimerait.
Et donc, comment ça se passe par rapport aux histoires que vous voulez adapter ? Est-ce que vous devez contacter donc, l'auteur ? Est-ce qu'il y a une histoire de droit d'auteur, etc.
Alors, il y a des livres que l'on adapte. On fait aussi des créations. on fait les deux. Et en fait, on bénéficie d'un agrément du ministère de la Culture qui s'appelle l'exception au handicap pour les droits d'auteur, et donc qui nous permet d'adapter sans payer de droits d'auteur et même sans avoir à demander à l'auteur ou à l'éditeur, même si généralement on les prévient, ils sont plutôt en général ravis que l'on adapte leur livre. Donc on peut adapter un livre à partir du moment où il n'a pas été pensé pour pouvoir être lu par ce public-là.
Et justement, en parlant donc de vente de livres, où est-ce qu'on peut retrouver vos ouvrages ?
Alors, nos ouvrages, principalement sur notre site. On peut les acheter, les commander directement sur notre site. Il faut savoir que pour les familles qui ont un enfant déficient visuel, qui sont adhérents à notre association, ils peuvent bénéficier d'un tarif plus avantageux que celui qui est sur le site. Et sinon, on peut le commander aussi à son libraire. Mais comme on vend déjà à perte, que les libraires nous prennent un pourcentage, on favorise le fait de nous les commander directement. Après, on les retrouve dans plein de bibliothèques, puisqu'on a fait un gros travail depuis de longues années avec les bibliothèques pour inciter à acheter des fonds adaptés. Donc, il y a pas mal de bibliothèques qui ont nos livres aussi.
Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, étape par étape, comment justement vous réalisez un livre ? Que ce soit du choix du livre jusqu'à l'adaptation en braille, par exemple, ou en gros caractères, etc. Jusqu'à l'impression, la mise en vente.
Alors, on fait un choix de livre qui va être en lien avec... On a un comité pour ça, de décision des livres qu'on va adapter, qui va être en lien aussi avec le budget qu'on arrive à avoir. Enfin, il y a tout un tas de paramètres. Nous, on essaie de se tenir au courant aussi des livres qui sortent, des besoins qu'il y a. Puis parfois, nous, on peut trouver des livres qui sont des coups de cœur. Et voilà. Et avec tout ça, on fait des choix de livres adaptés. Une fois qu'on a choisi un livre à adapter, en fait, ce sont des graphistes qui d'abord qui vont commencer à faire une maquette. Elles vont réfléchir à toute la partie de ta adaptation, le format, l'adaptation des images tactiles, comment mettre le texte en noir, en braille, etc. Enfin voilà, pour que tout puisse convenir et au niveau ergonomie puisse être accessible pour l'enfant déficient visuel. Puis on fait une première maquette, ça prend déjà pas mal de temps, on va faire tester pour voir si ça fonctionne. Une fois qu'on a fait tester, on va faire des retours, des modifications, on va refaire tester, voilà, jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui nous paraît optimal. Donc il s'est passé déjà au moins 2 mois. Et une fois que tout est prêt, tout est calé, on va acheter toutes les matières, on va lancer l'impression, voilà, et on va lancer la production des images tactiles à l'atelier. Et donc, toutes ces différentes étapes prennent plusieurs mois jusqu'à la phase finale où, donc, quand tout arrive de chez l'imprimeur, qu'on a fini de fabriquer toutes les images tactiles, ce que je vous disais tout à l'heure, on va tout coller dans les livres et on va mettre la spirale. Enfin, voilà, on va finaliser le livre et après, il sera disponible.
C'est un sacré travail, c'est super courageux et c'est quand même une cause très très importante, je trouve. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir leur site pour regarder un peu ce qu'ils proposent et pour surtout le système de dons qui est quand même très nécessaire à la vie de cette maison d'édition pour que les livres puissent être accessibles justement. Et du coup, vous m'avez expliqué que vous aviez des livres aussi pour les ados et adultes déficients intellectuels. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, en fait, il y a 5 ans, on a constaté un manque, voire c'était inexistant quasi presque, les livres pour les personnes déficientes intellectuelles niveau ado-adulte. Et donc, on a créé une méthodologie participative. On s'est mis à créer des livres avec des personnes déficientes intellectuelles. Et donc, aujourd'hui, on développe des collections de livres en FALC, facile à lire et à comprendre, qui est une méthode d'écriture spécifique pour rendre la lecture accessible pour ces personnes, soit pour des personnes déficientes intellectuelles, soit pour des personnes qui sont éloignées de la lecture ou pour qui la lecture peut être parfois un obstacle. Voilà. Et c'est un texte simplifié, des images simplifiées, et qui permet de rendre la lecture accessible.
Eh bien, merci beaucoup, Caroline, d'avoir répondu à toutes mes questions. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir le site pour vous intéresser à ça, parce que c'est quand même très important. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore.
Merci à vous d'être venu à notre rencontre et à bientôt.
Je rappelle encore une fois que c'est une maison d'édition qui marche principalement par le don et que c'est très important de rendre la lecture accessible du coup à tous et à toutes. Aux enfants, aux ados, qu'ils aient des déficients mentaux, intellectuels, visuels et tout autre, pour que tout le monde ait le plaisir de lire, du coup. Alors, n'hésitez pas à consulter le site mesmainsenor.com sur Internet, du coup, sur votre navigateur de recherche favori.
Et peut-être, pardon, je rebondis aux débeautés, mais allez consulter aussi en bibliothèque, parce que, comme elle le disait dans l'interview, leurs livres sont aussi très présents en bibliothèque, en médiathèque, et parfois aussi en librairie. Mais
c'est ça.
Ça rend vraiment la lecture accessible, et en plus, c'est des livres matériellement très bien faits, très beaux.
J'ai vu, c'est impressionnant, c'est tellement de travail, tout à la main, tout collé à la main, enfin je...
J'aurais aimé être là, tu vois.
Ah ouais, c'était super intéressant. Et du coup, pour revenir à nos questions, pour nos invités, et d'abord, je vais faire juste une petite annonce, je n'avais pas prévu que cette émission marcherait si bien dans la discussion, du coup on va devoir annuler enregistrements qui passeront une autre fois et on va devoir diffuser
en vrai c'est pas annulé
pour ce soir c'est reporté, on va pas pouvoir passer le salon des éditrices indépendantes de Limoges qui s'est tenu en octobre, c'était super intéressant, j'ai eu un super accueil et tout, et il y a pas de souci, ce sera diffusé mais juste ce soir on n'aura pas le temps malheureusement.
Ça sera un bonus, quoi.
Voilà, ce sera un bonus plus tard.
Ou une autre émission, carrément, autour de ce super salon.
C'est ça. Et donc, pour revenir à nos questions, moi, je me posais pour j'aimerais bien avoir une petite anecdote, je sais pas, sur un de vos plus gros défis, peut-être avec un auteur ou je sais pas, que vous avez eu depuis que vous avez commencé, en fait, cette carrière d'éditeur.
Ouh là là, attends, on aurait dû le savoir à l'avance, là, parce que un défi chasse l'autre...
Bah, moi, j'en ai un.
Vas-y.
Bah, ça, parce que ça touche... Bah, c'est un défi qui s'est bien terminé. Mais c'était quand même un défi. Il y a 12 ans, on me présente une amie qui vivait en Suède à l'époque. Elle me présente un livre, me les donne et me dit « Écoute, ce livre est super. » Vraiment, je l'ai lu. C'est un livre super bien... écrit, n'était fille pas trop au dessin, la première impression fait les lire et, il faut que tu les lises sauf que moi je ne lis pas les Suédois et j'ai vraiment été frappé par sa force des persuasions, ça m'a vraiment pris et donc je l'ai fait traduire du Suédois sans savoir si j'allais le publier.
Ouf, oui.
Et ça a été... Une fois qu'il était traduit, j'ai dit oui, elle a parfaitement raison, c'est un livre magnifique. Je l'ai publié et ça a été un des plus gros succès de la maison d'édition en termes des ventes. Et pas seulement en termes des ventes, c'est un livre qui a beaucoup circulé, qui a beaucoup marqué les esprits. Mm-hmm. Et c'est ça peut-être la chose qui m'a donné plus des joies, quoi. Plus que les chiffres, c'est le fait que les livres étaient lus, étaient discutés, que ça fait bouger les choses. J'ai publié aussi pour ça, quoi. Parce que pour faire bouger les choses dans la société, quoi.
Et c'est quoi le titre ?
C'est Les sentiments du prince Charles.
D'accord.
Des livres Strömquist.
Et du coup, ouais, ça a été compliqué parce que justement, vous ne connaissiez pas l'histoire avant de la faire traduire ?
Pas du tout.
Et vous avez dû investir du coup pour la faire traduire ?
Pardon ?
Vous avez dû investir pour la faire traduire ?
J'ai payé un traducteur.
Ah ouais ?
Oui, la traductrice.
Oui, effectivement, du coup, c'était un petit risque quand même.
C'était le seul moyen. Hein. C'est... Et ça a marché. Il y a d'autres choses que je ne raconterai pas qui n'ont pas marché du tout.
Ah, je trouve ça génial.
Ouais, nous, je pourrais dire un peu la même chose pour Osamu Tezuka, mais il était déjà mort quand on a décidé de le publier. Mais c'était quand même... Osamu Tezuka, c'est on dit souvent le dieu du manga. Enfin, c'est en gros le créateur au Japon de la bande dessinée telle qu'elle est aujourd'hui au Japon, qu'on appelle manga, et qui a publié en son nom plus de 400 livres, alors qu'il a eu une vie relativement courte. Mais en fait, il a créé carrément un studio de production autour de ses œuvres, etc. Et certains de ses titres ont influencé, notamment Grégory Jarry et Thomas Dupuis, les co-créateurs de la maison d'édition, des éditions Flabbelab. Et donc voilà, on parlait souvent, quand on parlait d'un livre, on disait « Ah oui, ça me fait penser à Phénix, ah non, mais c'est comme un peu comme dans l'histoire des trois Adolphes, tu vois ». Enfin voilà, des livres de Tezuka qui étaient en fait des repères de notre culture commune. Et puis un jour, ils se disent « Bon, il a une œuvre tellement immense, il y a plein de... » Enfin, sur les 400 livres, absolument pas tout n'est traduit en français. Enfin, tout n'est pas traduit en français. Il y en a des centaines qui sont toujours pas traduits. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont bien. En fait, quand on a autant produit, il y a sans doute beaucoup de choses dispensables. Mais finalement, pourquoi pas tenter ? Mais sauf que la Tezuka Production, enfin, là, souvent on le compare à RG. Voilà, c'est un truc un peu énorme. Et finalement, ils ont quand même décidé de prendre contact avec les représentants. Donc, Tezuka étant mort en 1989, ses héritiers, enfin, qui ont hérité aussi de la gestion de son œuvre. Après son décès, qui est en fait aussi un empire financier au Japon. Mais en fait, voilà, ces personnes sont aussi là pour faire vivre l'œuvre d'Osamu Tezuka et ont accepté qu'on le traduise. Donc pareil, on a fait traduire, avec l'appui, en fait, c'est aussi des traducteurs qui habitent au Japon et qui disent « Ah, mais il y a telle œuvre, ça me semble assez proche de votre style. » Et donc on voit les dessins, parfois on passe par une traduction anglaise pour le lire en anglais, on comprend un peu, mais là... Pareil, il y avait le premier Debout l'Humanité, il y avait un traducteur qui avait déjà travaillé et c'était incroyablement génial de se dire, mais oui, c'est de la surprise, de dire, mais pourquoi personne a déjà publié ça ? Pourquoi il est inédit en français ? Et ça tombe sur nous. Enfin, voilà, on s'est senti hyper chanceuses et chanceux et aujourd'hui, on publie encore des livres, des mangas d'Osamu Tezuka. Cette année, on a publié Zero Man, deux mangas de 450 pages, à peu près 480 pages. C'est la première fois qu'on publie du Tezuka qu'il a fait pour la jeunesse. C'était la même période que Astro Boy ou Astro le petit robot. Donc voilà, en fait, en 2024, on continue à publier depuis plus de 10 ans. Pareil, un titre tous les 2 ou 3 ans. Et on n'imaginait pas du tout ça au début. Ouais, c'était un peu un défi. Après, d'accord. Sinon, dans les autres défis, le plus gros, je vais aller plus en résumé, mais pour nous, c'est aussi d'éditer du roman photo. Parce que ça fait 20 ans, enfin plus de 20 ans que c'est au cœur des choses qui nous plaisent, la culture donc, qui passait aussi par Harakiri, la bande comme GB, qui publie des romans photos très drôles et très provocateurs aussi dans les années 70, qu'on a d'ailleurs réédité aussi en partie. Le roman photo n'a pas encore, enfin ça commence tout juste là aujourd'hui, en 2024. Il y a une expo qui est visible actuellement à la Cité de la BD d'Angoulême depuis hier. Donc on va dire, ok, peut-être la reconnaissance arrive, mais bon, nous ça fait juste 20 ans qu'on en fait et qu'on en vend très très peu. À part Paulina Paris qui a quand même plusieurs milliers de, qu'on a réédité 2 fois et qui a plusieurs milliers de ventes au compteur, mais quand même, voilà, on a du mal à le faire. Et bah, par exemple, quand Benoît Vidal nous a contactés parce que Grégory Jarry avait fait un manifeste. Non, même lui, c'était avant ça. Parce qu'on avait publié un roman photo lors d'ateliers avec des enfants que Benoît Vidal était tombé dessus en librairie, d'où l'importance de diffuser des livres en librairie, et que Benoît Vidal avait dit « Ah mais oui, ma grand-mère Joséphine, qui était une tellement bonne conteuse que j'ai prise en photo, je voulais faire un truc avec son histoire de son amie Pauline qui est tellement incroyable, on dirait du Victor Hugo, cette amitié entre deux femmes sur 50 ans, tout ça. » Et donc il s'est dit « Mais oui, je vais faire du roman photo. » Sauf qu'il n'était pas du tout auteur. Il était dans le civil, on va dire, et il est prof de gestion, ça n'a rien à voir. Mais par contre, c'est un grand lecteur de bande dessinée comme nous, et donc il s'est attelé, il est devenu complètement auteur de romans photos avec nous, qu'il a voulu accompagner. Alors pareil, on n'avait pas les mêmes références graphiques, il a appris à écrire avec des photos, des images d'archives, il allait chercher justement des images qui correspondent à son histoire. Enfin, c'est un boulot monstrueux, mais qui finalement a abouti à 2 livres, et au fait qu'aujourd'hui son œuvre est donc présentée à la Cité de la BD, à côté d'autres auteurs. Et voilà, c'est pas encore complètement une réussite commerciale, enfin, quoique voilà, ce livre-là, si, mais les autres romans photos qu'on fait, c'est toujours un gros risque financier pour nous de les faire, mais on y tient à fond, et du coup, ça reste un défi qu'on est très content d'avoir porté, parce que, ben oui, on a l'impression, on a fait naître des vocations d'artistes avec ça, en fait. On le sait.
Bah, c'est certain. Hein. Moi, je pense qu'il y a une chose que j'aime beaucoup dans l'éditeur indépendant, c'est la persévérance. Là, avant d'aller. Ah oui, non, mais c'est vrai, c'est pas. Là, t'as fait un exemple qui s'est pas de bien. J'en sais quelque chose parce que j'ai aussi vendu, dans le sens que j'ai fait les travaux qu'on disait tout à l'heure de diffusion, distribution, à l'époque où eux, ils publiaient les tout premiers.
Eh oui.
Et je m'en souviens très bien des réactions qu'on avait. C'est quoi ces trucs ? C'était vraiment très négatif. Et l'effet d'avoir continué. Et je vous parle d'une chose qui s'est passée il y a à peu près 20 ans, quoi. Donc ça fait 20 ans qu'ils en font, et là je pense que les rigueurs commencent un peu à changer. C'est peut-être pas encore la consacration, mais ça change.
Ce qui change, c'est qu'on voit des gros éditeurs qui se mettent à en faire, donc là on se dit voilà. Ok, bingo.
Je vais dire, toujours de ces personnes-là dont on parlait au départ, de ces gros groupes industriels, je pense qu'au deuxième, au troisième, ils auraient arrêté. C'est la grande différence qu'il y a. Pareil, là je vous faisais l'exemple tout à l'heure des livres tranquistes. En effet, la première édition de ces livres a été une véritable catastrophe d'un point de vue commercial. Et ça a été l'effet de dire non, le livre est bon, je vais publier aussi l'autre qu'elle a fait, qu'il est aussi bon, qui a fait que ça s'est enclenché un peu, que l'auteur a commencé à être connu. Si j'aurais arrêté face aux résultats commerciaux catastrophiques du premier, tout ce qui est arrivé après, ça ne serait pas produit pareil. C'est la même chose que pour les romans photos. Je veux dire, nous, on revient toujours au menuisier à IKEA. Nous, on raisonne vraiment avec des critères différents. Ce n'est pas ceux de la rentabilité immédiate. On travaille sur le long terme. On a toujours travaillé sur le long terme. Et pour ce qui concerne les, disons, ce qu'il y a dans les livres, ce que les livres portent, et aussi dans la vie de l'objet, une fois qu'il est, disons, qu'il est réalisé, quoi.
Et du coup, j'ai une petite question sur les romans photos, juste. Comment on fait les démarches ? Admettons, quelqu'un veut faire un roman photo. Est-ce qu'il faut qu'il ait déjà les photos ? Est-ce qu'il faut qu'il vous donne d'abord le manuscrit ?
Alors là, il y a tout. Tous les cas de figure existent. Il y a des gens qui nous ont proposé des romans photos qu'ils avaient déjà presque tournés. La plupart du temps, c'est quand même... Comme nous, on sait qu'on intervient beaucoup dans l'écriture et dans le contenu des œuvres. On va dire qu'il y a souvent une phase de tournage ou de retournage. Enfin, il faut retourner des scènes qui manquent. Et c'est pas évident avec le roman photo parce que... Bah, par exemple, je vais prendre un exemple. Même Le Grand Soir a commencé petit. C'est un roman photo fait par Lisa Lugrin et Clément Xavier, un couple. Ils ont fait un roman photo à partir des images de leur bébé, enfin de leur enfant quand il est né. Et ils ont pris des idées. En fait, ils sont aussi auteurs de BD tous les deux et ils vivent en couple. Et ils, à partir de leurs photos de famille, ils ont commencé à délirer sur les bébés sont beaucoup plus intelligents que nous et tout ce qu'ils vivaient en tant que parents, c'est-à-dire les remises en cause, les ah mon Dieu, il a tout capté, ah là là, est-ce qu'on assure, est-ce qu'on assure pas, mais notre génération a tout foutu en l'air, comment vont-ils faire pour sauver le monde en si peu de temps, etc. Donc ils ont imaginé une histoire où les bébés sont plus intelligents que les parents et genre, du coup, ils doivent tellement aller plus vite que bon, bah voilà, à 6 mois, ils savent parler, ils commandent des pizzas avec la carte bleue de papa. Puis il les recadre un peu aussi au passage. Et donc, ils avaient des photos qui étaient des photos de famille, des fois prises avec les téléphones à l'arrache. Donc, autant dire, la qualité n'était pas toujours au rendez-vous. Donc, on a trouvé ensemble, au bout de beaucoup de tâtonnements, une façon de faire des aplats colorés dans le fond pour faire un truc un peu pop en faisant jouer les contrastes et tout. Donc, ça, c'était pour la forme. Et ensuite, pour le récit, ben, on a dû s'adapter aux photos qu'ils avaient déjà. Des fois, on trouvait qu'il y avait des moments un peu faibles et tout, mais on ne pouvait pas retourner. Parce qu'un bébé de 6 mois, 3 mois plus tard, c'est plus le même. Donc, il n'y a pas de raccord possible, en fait, à cet âge-là. Et on n'a pas pris d'IA, donc voilà, on n'a pas recréé un bébé en IA.
Et tout.
On n'a pas encore parlé d'IA dans cette émission. Ouais. Mais voilà, donc parfois, il y a ça. Et puis d'autres fois, il y a des retournages. Oui, on a besoin d'une scène. Voilà, on va la retourner. C'est comme des films, les romans photos, c'est du tournage.
D'accord. Et une petite dernière question, je pense, parce que ça va peut-être prendre un peu de temps et qu'après, Hélène va partir. Bref, pose ta question, Éloine.
La dernière question, la fameuse, du coup. Est-ce que vous avez un conseil à donner, du coup, aux auteurs, autrices qui envisagent l'auto-édition ?
Ou même de se faire éditer tout court, d'ailleurs.
Si vous n'avez pas...
Moi, je conseille... Bah, vas-y, t'hésites, alors...
C'est... Bah, le premier conseil, c'est de trouver un éditeur.
Pas sûr. Bah, on n'est pas d'accord.
Non, attendez. C'est pas d'aller démarcher un éditeur. D'avoir vraiment, de réussir à avoir quelqu'un qui ait un regard sur ce qu'ils sont en train de faire ou qu'ils viennent de faire.
Comme des bêta-lecteurs, par exemple.
Oui.
Voilà.
OK.
Un public test, on pourrait dire aussi.
Voilà. Et disons, le problème, c'est comment on pèse les choses, quel est le point d'équilibre entre ce que moi, en tant qu'auteur, j'ai envie et je veux exprimer, et dans les termes dans lesquels je l'exprime, et ce que me renvoient les autres. Il faut trouver les bons équilibres. C'est pas que je vais imposer... je peux choisir, hein. C'est là aussi, on revient toujours au fameux discours du risque. Les risques qu'on a d'éditer, c'est les mêmes risques à s'auto-éditer. Ça ne change pas. Et de dire, bon, effectivement, il faudrait peut-être que je revoie cette partie. Là, je me répète, là, je suis trop long. Je donne pour acquis tout un tas de passages qui ne les sont pas, parce que dans ma tête, c'est très clair. Mais dans la tête du lecteur, c'est pas vraiment la même chose. Toutes ces choses-là. ça va avoir un regard sur les résistances. C'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est une fois qu'on a fait les livres, de savoir déjà comment on va les faire arriver chez les lecteurs. La librairie, c'est un canal. La vente directe, ça n'est un autre, avec tous les bémols qu'Hélène citait tout à l'heure. Ben, il faut l'avoir déjà clair au départ.
Ok.
Sinon, on se retrouve avec beaucoup, comme j'ai déjà
beaucoup
vu, avec beaucoup des cartons pleins de livres dans les séjours, et rien ne se passe.
Ok.
Ouais, moi j'ai un peu le même genre de conseil. Ouais, effectivement, trouver une personne ou deux dont avec qui on a une bonne relation de confiance. Et voilà, qu'il faudra faire attention à ne pas trop abîmer, parce que des fois, les gens n'osent pas dire les critiques. Mmh. Enfin, voilà, il faut dire, tu peux y aller. Et puis en même temps, quand la personne y va, pas être trop... voilà. Faire attention à un moment où on va répondre, parce que je sais très bien que le premier réflexe, c'est de dire, mais non, mais trop con, elle n'a rien compris. J'ai voulu faire ça. Bon, voilà, attendre un peu avant de faire le feedback. Et donc, ces personnes de confiance, c'est important. Après, moi, je conseille souvent, quand des personnes ont très forte envie de faire le livre, de faire soi-même une première maquette, soit en photocopie, soit avec une imprimante de bureau, même tout simplement. Moi, j'ai aussi commencé à être autrice comme ça, en faisant des petits fanzines que j'envoyais aux copains et que je fabriquais avec mon imprimante laser noir et blanc, qui ne coûte pas cher. Et du coup, je me fadais déjà toute la... j'ai écrit jusqu'au bord de la page. Du coup, la fin de ma phrase est tronquée par les marges de l'imprimante. Bon, bah, ça, on le sait. On a essayé. Et puis surtout, ça fait... Enfin, quand même, dans le fait de faire des livres, je pense d'avoir l'objet dans les mains, ça nous fait toujours très plaisir. Et même si cet objet est simple, enfin, commencer... comme quand on commence un jardin, on dit toujours, tu réduis par 3 la surface que tu voulais faire pour être capable de le faire. Ben, finalement, faire un livre, ça serait presque ça. Tu peux réduire par 3 le nombre de pages et puis... par 3, le dos carré collé couleur avec un filet, pas tout de suite. Commence par le faire en photocopie. Si ça tient en photocopie en noir et blanc, que tu peux l'envoyer par la poste à 2-3 personnes à qui ça fera plaisir d'avoir un petit livre, bah aussi, tu auras des petits retours éventuellement. Mm-hmm. Et pense à ton lectorat, à pas être trop long. Enfin, tu te dis, là, peut-être, je vais perdre des gens. Ben, voilà, ça, c'est quand on écrit, c'est utile. Et sur la partie diffusion, il y a une chose qu'on n'a pas trop abordée, enfin, peut-être au début, mais c'est que c'est vrai que dans le livre en France, a un prix unique qui est fixé par l'éditeur. Et donc, ça veut dire que voilà, les livres neufs sont vendus au même prix partout. C'est pas moins cher sur Internet, c'est pas moins cher en supermarché, c'est pas moins cher dans une grande surface culturelle. Le prix est marqué dessus, s'il est neuf. Occasion, c'est un autre circuit. Et donc, c'est l'éditeur qui le choisit, et l'éditeur le choisit en fonction de son coût de fabrication, qui n'est pas que le coût d'impression, en fait. C'est le temps qu'on a passé à travailler avec l'artiste, l'argent qu'on lui a donné éventuellement en avaloir pour faire le livre, etc., etc. Et donc, quand on est en auto-édition et qu'on a besoin de financer un peu son livre, c'est bien de fixer un prix, surtout si on veut le mettre en dépôt ou en vente dans des librairies, parce qu'il faut penser que les libraires, ils ont besoin de se payer aussi. Mm-hmm. Donc, ils ont besoin de prendre leur part sur le livre. C'est bien de leur laisser 25-30% pour rémunérer leur travail, largement. Et donc, voilà, si ça nous coûte, par exemple, je mets au hasard 5 euros d'imprimer un livre un peu en couleur, c'est déjà beaucoup, 5 euros. Idéalement, il faudrait multiplier au moins par 2 pour avoir sa petite marge en autodiffusion, pour que le libraire ait sa marge et qu'il nous reste un peu de sous, parce qu'en fait, on va en donner plein des livres. On sait très bien qu'on en donne toujours plein. Donc voilà, réfléchir à ça, au prix qu'on est prêt soi-même à fixer pour son livre, en se disant, si je veux le vendre à tel endroit, il y aura peut-être des frais de port, il y aura peut-être le libraire. Et en vrai, dans l'édition, nous, on essaye d'avoir un ratio de 5 par rapport au prix d'impression. Là, je parle plus d'impression. En BD. C'est-à-dire qu'un livre qui coûte 2 euros à imprimer, il faudrait qu'on le vende 10 euros pour être à peu près sûr de rentrer dans nos frais.
Ça,
pour rémunérer toutes les étapes de la chaîne dont on a parlé.
On n'en a pas beaucoup parlé de ça.
Non, c'est un peu compliqué, ça fait toujours bizarre.
C'est un truc très intéressant de savoir.
Y compris pour filer les 10% de droits d'auteur, c'est bien d'avoir ce genre de marge.
Voilà comment ça marche, c'est-à-dire... quand on achète, je vais à la librairie, j'achète un livre à 10 euros.
Il y a 1 euro
qu'est-ce qui devienne ces 10 euros? Qui va les toucher? Et en fonction de quoi? Et ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir bien clair en tête, qu'on soit éditeur, disons, classique, et qu'on soit aussi auto-éditeur.
En tout cas, quand on pense à la diffusion, ouais, c'est de se dire faire la marge pour rémunérer les gens dessus. Mmh. Et après, le fameux camembert de l'édition, moi, ça me fait rire parce que je fais un peu un livre en ce moment sur ce sujet-là. Et en fait, le camembert, c'est-à-dire la marge de répartition, auteur, qu'est-ce qui va payer l'auteur, qu'est-ce qui va payer le distributeur, qu'est-ce qui va payer le diffuseur, l'imprimeur.
Je l'ai faite.
Bah, en fait, moi, quand je le fais pour Flubblub, c'est pas du tout le même que celui que je vois dans Livre Hebdo qui concerne l'édition industrielle. Dans l'édition industrielle, les éditeurs, ils se payent toujours, quoi. Alors que nous, souvent, on est en négatif. Et je me dis, ah ouais, bon, ben, même si on fait une moyenne, on n'arrive pas du tout au même pourcentage.
Voilà, il y a les, voilà, les fameux camemberts, justement, il est
très fluctuant.
Il change. C'est presque impossible de faire un camembert qui vaut pour l'édition. On revient toujours au fameux discours d'IKEA. Voilà. Moi, j'ai fait c'est lui, mon camembert. Mm-hmm. Et c'est, par exemple, sur un livre qui est vendu 10 euros, les sont tombés, c'est que l'État touche, là, il y a la TVA, mettons que ça soit.
5%.
L'État se soit déjà servi. En effet, les auteurs, parce que parfois il y en a un, parfois il y en a deux, parfois il y en a même trois, il y a un traducteur qu'on considère en tant qu'un auteur, c'est pas. Donc il touche des droits d'auteur. C'est entre 10 et 12%, c'est-à-dire sur 10 euros, il touche 1 euro 20. L'imprimeur, il touche environ 2 euros. Et c'est un peu les multiplicateurs.
Okay.
Donc par la diffusion, la distribution, c'est entre 15 et 17%. Les libraires, c'est 39-40%.
Ce n'est pas leur marge, hein. Ça sert à peine à payer leur loyer, leur
salaire.
Oui, c'est
ce qu'ils touchent après, c'est pas ce qu'ils gagnent, c'est pas la même chose. Et l'éditeur, à la fin, il gagne entre 1,30 et 1,60 €.
D'accord.
Il touche 1,30 et 1,70 €, auquel il faut effectivement déduire tous les frais. Donc voilà, ça c'est un peu la répartition.
D'accord.
Et dans le cas d'auto-édition, on peut quand même toucher tout, quoi.
Ouais,
voilà,
ça.
Si on fait tout.
Ok, bah merci beaucoup vraiment d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était super intéressant. Vous avez apporté plein d'informations. Moi, j'ai passé un super moment. J'espère que ça vous a plu. Et puis, vraiment, on vous remercie vraiment beaucoup d'être venu répondre
merci
à nos questions. Et je propose d'écouter notre dernier reportage pour ce soir. Qui est moi je suis allée interviewer Philippe Noël, qui est le directeur des éditions Weblim, et c'est une maison d'édition indépendante à compte d'auteur. Alors il y a une différence entre maison d'édition à compte d'auteur et à compte d'éditeur. Dans la première, la production du livre est entièrement financée par l'auteur lui-même, et c'est à l'auteur que reviendra l'intégralité des revenus des ventes de son livre. Dans la seconde, le projet est financé à 100% par l'éditeur et l'auteur n'aura qu'un assez petit pourcentage sur les ventes de son livre. Et Philippe Noël nous l'explique super bien dans l'interview, c'était passionnant. Alors il y a des avantages et il y a des inconvénients des deux côtés, mais je dois faire quand même un petit disclaimer, enfin prévenir les auditeurs. Si vous souhaitez être édité, faites très attention au contrat que vous signez. Soyez bien renseigné avant tout engagement, que ce soit chez une maison à compte d'auteur ou à compte d'éditeur. Il peut y avoir des arnaques chez certains. Donc on se renseigne sur la maison d'édition en question.
Même chez les multinationales, il peut y avoir des arnaques.
S'il faut, on contacte des auteurs déjà édités chez elles pour connaître leurs expériences et on lit bien le contrat qu'on nous envoie. Maintenant, je vous laisse écouter Philippe Noël qui m'a personnellement appris beaucoup de choses et j'ai trouvé ça passionnant. Et merci encore à nos deux invités.
Merci. Alors aujourd'hui, Je suis aux éditions Weblim chez Philippe Noël pour parler de leur maison d'édition indépendante. Bonjour Philippe.
Bonjour, bonjour à tous.
Est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter un petit peu votre maison d'édition ?
Alors, ma maison d'édition, sa particularité, c'est qu'elle fait de l'édition à compte d'auteur. Dans l'édition, il y a trois possibilités, soit s'adresser à un éditeur à compte d'éditeur, soit se débrouiller tout seul et faire de l'auto-édition. Et puis entre les deux, il y a l'édition à compte d'auteur. L'édition à compte d'éditeur, l'éditeur prend tout à sa charge. De la conception, de la correction, de la fabrication, de la distribution, de la commercialisation du livre. L'auteur n'a rien à débourser et il est rémunéré en fonction du pourcentage des ventes que l'éditeur va réaliser. L'auto-édition, l'auteur fait tout par lui-même. Il va écrire, bien sûr, son livre. Il va assumer sa correction, la mise en page de son bouquin, la création de sa couverture, la sous-traitance ou l'impression lui-même de son livre, toutes les formalités administratives, et il va se débrouiller pour vendre son livre tout seul. Et quand on n'a pas ces capacités-là, eh bien, on sous-traite cette activité-là auprès d'un éditeur à compte d'auteur. Donc c'est le rôle que j'assume. Je mets à disposition sous forme de prestation la correction donc du livre, sa mise en page, la création de la couverture, toutes les formalités administratives associées et la sous-traitance de l'impression. Je voudrais rajouter, pour ce qui concerne donc l'édition à compte d'auteur par rapport à l'auteur, c'est l'auteur qui va assurer donc la commercialisation de son livre lui-même. L'avantage, c'est qu'il va toucher la totalité de ses ventes, plutôt qu'un pourcentage qui va au maximum à 5%, je dirais, chez un éditeur traditionnel. Pour ce faire, il a à sa disposition, bien sûr, tout ce qui concerne ses relations, sa famille, ses amis, mais également il peut réaliser des séances de dédicaces chez des libraires, faire des dépôts-ventes de livres chez des libraires ou participer à des salons qui lui permettent effectivement de vendre ses livres.
Et alors, comment ça marche? Comment les auteurs font appel à vous? Et à partir de là, comment est-ce que vous fonctionnez étape par étape?
On entretient avec les auteurs une relation très suivie. Nous tenons vraiment à les aider, à les faire participer, à les intégrer dans la réalisation de leur projet. Ça va partir à l'origine donc, de la réception chez nous d'un tapuscrit. La première étape, c'est que on va lire effectivement ce tapuscrit pour connaître un petit peu le contenu et voir de quoi il retourne et s'il y a un potentiel sur l'écriture. À ce stade-là, déjà, on fait un premier tri en disant non, ça ne nous intéresse pas pour diverses raisons, ou effectivement, on peut prendre en charge le projet. Ensuite, ce texte-là est soumis à un comité de lecture. Ces commentaires-là vont surtout aider l'auteur à éventuellement se remettre en cause sur certains aspects de son livre. Et nous, de notre côté aussi, ça va nous aider au niveau de la correction et de la proposition éventuellement de modifications à réaliser. À partir de là, lorsque l'accord de travailler ensemble est établi, on passe directement à la correction du livre. La correction du livre, elle est fournie à l'auteur qui va valider toutes les corrections. C'est-à-dire qu'on lui retourne son manuscrit avec tout en annotation, toutes les corrections, toutes les propositions de modification. Et va s'instaurer le dialogue entre lui et nous pour effectivement finaliser son document. Lorsque le livre donc est corrigé et mis en place, on lui fait des propositions de couverture. Donc soit l'auteur lui-même a déjà des idées et il nous fournit ses idées que l'on va retravailler, soit on leur fait des propositions. En général, on leur propose 2-3 couvertures avec des variantes, de façon à ce que là aussi, il puisse choisir, donner son avis, la faire modifier, et petit à petit, on met la couverture en place et on la définit comme ça. À partir de ce moment-là, la couverture est prête, le texte est prêt, on peut demander à l'imprimeur de nous fournir ce qu'on appelle un bon à tirer. C'est-à-dire que c'est l'impression d'un livre tel qu'il sera imprimé dans l'avenir, mais qui permet de faire les dernières vérifications. Les vérifications au niveau de la couverture, la mise en place, etc., la colorimétrie. Refaire une lecture encore complète du livre. Donc ça sert à pinailler et à fignoler le projet. Et puis une fois que ça c'est fait, on passe à ce moment-là à l'impression.
Dans une maison d'édition indépendante à compte d'auteur, il y a beaucoup plus de liberté pour l'auteur.
Alors c'est une question de méthode, parce qu'on peut très bien trouver des maisons d'édition à compte d'auteur. On en trouve, entre guillemets, à foison, si vous regardez sur Internet, à des tarifs qui sont des fois prohibitifs. C'est un véritable scandale. Donc c'est plus une façon de travailler. Nous, on aime effectivement cette relation-là. Des maisons d'édition à compte d'éditeur, effectivement, sont beaucoup plus directives. Et j'ai même connu des expériences avec des auteurs où les relations ont été très tendues au niveau des exigences de l'éditeur par rapport à l'auteur. Mais on peut le comprendre, parce que c'est quand même l'éditeur qui va financer, qui va s'engager financièrement à 100% sur un produit qu'il va devoir vendre après. Donc vous voyez, les rapports ne sont pas du tout les mêmes. Pour ce qui nous concerne, nous, notre objectif, c'est de permettre à des auteurs de pouvoir publier leur bouquin sans être confronté effectivement à cette grosse mécanique de l'édition à compte d'éditeur. Bon, puis il faut dire aussi que les éditeurs reçoivent des dizaines de manuscrits tous les jours et qu'on a plus de chances de gagner au loto que de se faire éditer par une maison à compte d'éditeur.
Et justement, par rapport aux chances de se faire éditer, quels sont les aspects qui font que notre manuscrit potentiellement sera refusé ?
En ce qui nous concerne, ça va être le sujet qui est traité, la façon dont il est écrit. On n'a pas de ligne éditoriale. On publie des poésies, on publie des romans, on publie des biographies, et même si parfois l'écriture est un petit peu douteuse, la relation qu'on a avec l'auteur, des fois, nous pousse quand même à éditer le livre parce que la personne a vraiment une envie, un besoin, et même si effectivement l'histoire n'est pas forcément extraordinaire, on cède quand même à ses envies, alors qu'effectivement, chez un éditeur à compte d'éditeur, il n'aurait aucune chance d'être publié.
Et est-ce que vous avez un format de manuscrit que vous demandez ?
Oh, pas du tout, pas du tout. C'est vrai qu'on accepte les tapuscrits en général au format numérique, quel qu'il soit. De toute façon, nous, on les récupère, on commence à travailler en utilisant Word. Donc non, il n'y a pas de contrainte de ce côté-là.
D'accord. Et du coup, plus personnellement, depuis combien de temps déjà ça fait que vous faites ça ?
Ben, ça fait une bonne dizaine d'années, sachant que historiquement, tout a commencé avec mon épouse qui écrit. Quand elle a commencé à écrire, ben, on s'est confronté effectivement à ce problème-là. On a un manuscrit, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Ben, on a suivi le trajet traditionnel de tout auteur qui a commencé à envoyer ses manuscrits à des éditeurs et ne pas recevoir de réponse ou d'en recevoir 6 mois après ou des contrats qui ne sont pas acceptables. Et donc, on a commencé à se dire, on va s'auto-éditer, comment on fait ? Donc, petit à petit, on a appris à faire ce genre de choses. Ces livres donc, ont été auto-édités. Elle a participé à de nombreux salons. Et dans ces salons, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'auteurs qui étaient auto-édités, qui ne le savaient pas. Et à ce moment-là, on a eu l'idée de créer une association d'auteurs, donc auto-édités ou édités à compte d'auteurs. Et donc j'ai présidé pendant 4 ou 5 ans à cette association où l'objectif était d'associer nos forces, de faire des échanges. Voilà. À partir du moment où j'ai laissé tomber effectivement cette association, je me suis mis à mon compte en faisant la même chose. Voilà.
D'accord, donc ça vous a donné l'envie quoi, de pouvoir potentiellement aider de futurs auteurs comme vous. Vous avez dû trouver... tout seul.
Par notre expérience, effectivement, de confronter effectivement, à ce besoin, à cette possibilité de faire réaliser nos livres, notre objectif, effectivement, est le même, c'est d'aider, entre guillemets, et de faire en sorte que des gens qui ont besoin, effectivement, qui ont envie de faire éditer leurs livres, de pouvoir le faire facilement et à un coût très raisonnable.
Et combien de temps ça prend, approximativement, pour un manuscrit d'être édité, en fait ?
On a un cycle grosso modo qui tourne aux alentours de 2 mois, donc c'est très rapide. Il faut dire qu'on n'a pas une activité non plus, je dirais, débordante. Hein. On ne cherche pas à produire des bouquins. On publie 5-6 livres, je dirais, par an. Donc ce qui nous permet effectivement de réaliser ça tranquillement.
Et du coup, le coût de l'édition, de demander vos services, c'est à peu près combien ? Et quelle est la différence entre vos prestations à vous et celles d'une maison d'édition qui n'est pas indépendante, quoi ?
Oui, c'est vrai que l'édition à compte d'éditeur, tout à l'heure on l'a dit, l'auteur ne débourse rien. En contrepartie, il touche un pourcentage de ses ventes. L'édition à compte d'auteur, effectivement, l'auteur va financer son bouquin, mais par contre, il va toucher la totalité des ventes de ses livres. Au niveau tarif, nous avons un tarif de base qui se monte à 380 euros pour un livre standard de grosso modo de 250 pages. Mais on tient à pratiquer effectivement ce tarif vraiment intéressant, sachant que le contrat moral que l'on passe avec l'auteur, c'est de dire vous investissez 300-400 euros, mais il vous suffit de vendre 20-30 bouquins et vous avez remboursé effectivement votre mise de fonds initiale. Et après, c'est 100% pour vous. Et vendre 30 bouquins, c'est facilement réalisable.
Et personnellement, vous, qu'est-ce que vous pensez justement de l'auto-édition, vu que vous êtes passé par là à la base ?
Alors, l'auto-édition a très mauvaise presse, pour deux raisons. La première, c'est que ça fait concurrence aux maisons d'édition à compte d'éditeur. Et évidemment, quand on est concurrent, ça ne plaît pas. La deuxième raison, c'est que malheureusement, on trouve dans l'auto-édition beaucoup de mauvaises choses. N'importe qui, à aujourd'hui, peut publier n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle, effectivement, on va trouver des livres de mauvaise qualité. Bon, le fait déjà de passer par un éditeur à compte d'auteur, on garantit déjà l'intérêt de la lecture parce qu'effectivement ça nous a plu. On garantit une correction complète du livre. Et on fait en sorte qu'on livre un produit qui est commercialisable et qui tient la route. Quand on est à 100% dans l'auto-édition, effectivement, on a... pas le regard extérieur, et puis la mise en forme du livre est moche. Il y a des bouquins qui sont bourrés de fautes d'orthographe. Enfin, c'est... voilà.
Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter auquel vous pensez ?
Oui, je voudrais rajouter quelque chose, c'est concernant les droits d'auteur. Lorsqu'un auteur fait appel à une maison d'édition, il cède tous ses droits. Alors qu'en faisant appel à une maison d'édition comme la nôtre, il conserve la totalité de ses droits. Nous ne nous rémunérons pas sur les ventes qu'il réalise. Le produit, c'est le sien. Il touche la totalité de ses ventes. Il a un numéro ISBN qui est à son nom, qui lui garantit effectivement cette propriété.
Eh ben merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'était super intéressant et ça apporte un tout nouveau regard sur l'édition en général, sur le monde de l'édition, parce que moi, je n'étais pas du tout au courant de tout ça. Donc c'est super.
Tout ce dont on vient de parler, si les gens veulent avoir éventuellement plus de précisions ou des confirmations de tout ce qui a été dit, qu'ils n'hésitent pas à aller sur notre site internet weblim.fr, weblim.fr, où tous ces sujets-là sont abordés, les différences entre compte d'auteur et compte d'éditeur, les tarifs, la façon dont ça se passe. Tout est en ligne, tout est clair, rien n'est caché. Voilà.
Bah c'est super. Bah merci beaucoup. Et puis bah bonne journée à vous.
Merci à vous.
L'équipe de Radio Vassivière s'est relevée de notre dur combat tout à l'heure. Nous sommes en sous-nombre avec Lilou et ne pouvons malheureusement pas continuer cette émission
c'est
plus
faux,
longtemps.
Ils sont complètement en surnombre par ailleurs.
Ah ouais, oui, bon, non mais... Oui. Ah oui, c'est juste... Ouais, non mais on pourrait, mais en fait on vous laisse gagner.
Ouais, c'est ça.
En gros.
C'est gentil.
Mais du coup... Vous pouvez continuer de l'écouter jusqu'au bout de la nuit et jusqu'au bout du monde sur radiovassivière.com ou si vous n'êtes pas à l'autre bout du monde par ailleurs, mais simplement à Royères ou Émoutiers, vous pouvez l'écouter sur le 88.6 ou bien si vous n'êtes toujours pas à l'autre bout du monde, mais bien assis dans votre salle à manger en dégustant une bonne soupe de poireaux ou pommes de terre à Aubusson et à Feltin, c'est sur le 88 FM.
Mais ce n'est pas fini! Car petit à petit, Radio Vassivière envahit le monde. Et si vous êtes à Meymac ou Égletons, c'est sur le 103.1. Ou encore, si vous êtes à Ussel ou la Courtine, c'est sur le 92.3. Bref, nous, on vous aime, on vous kiffe, on vous love. Moi, je suis un petit peu bilingue et tout. Et on vous souhaite...
Et on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année sur les ondes de Radio Vassivière.
Joyeux Noël !